BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous recevrons un invité exceptionnel dans la première partie de l'émission et puis vous retrouverez ensuite dans la deuxième partie nos critiques. Ce sera Julien Damon et Christian Chavagneux aujourd'hui qui vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs Pascal Samama, Benaouda Abdedaïm pour leur projection dans le temps et dans l'espace avec Benaouda et sa moisson bien sûr d'études glanées dans le monde entier. Et n'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur X, sur Facebook, LinkedIn, YouTube, Librairie de l'écho ou at Librairie de l'écho pour avoir toutes les références des livres proposés dans l'émission, pour avoir des extraits, pour avoir le replay et des bonus bien évidemment. Et on démarre tout de suite avec notre invité. Du concret, du vécu, une belle histoire aujourd'hui au menu de la librairie de l'écho, mais une histoire édifiante, inspirante et très instructive pour nous permettre d'avancer sur le chemin mal balisé de la transition écologique. Cette histoire, c'est celle de Brent Smith, un jeune Terre-Neuvien devenu pêcheur qui va devoir changer de vie faute de poisson et qui, après plusieurs échecs, va devenir un fermier des mers qui nourrit et répare la planète. Il a été l'objet de plusieurs documentaires sur CNN ou Canal+. Il fait aujourd'hui partie, selon Rolling Stone, des 25 personnalités qui construisent le futur. Bonjour Brent Smith.
Hello, it's an honor to be here.
Plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
On est très heureux de vous accueillir dans la librairie de l'écho. Et cette histoire, vous la racontez donc dans Le fermier des océans aux éditions L'arbre qui marche. Alors, d'abord, racontez-nous comment vous êtes devenu très jeune pêcheur en Alaska. C'est le début de votre parcours.
Yeah, so I was born in Newfoundland,
Canada. Oui, je suis né au Canada, le point le plus au nord du continent. Ça a des petites maisons rouges, bleues, jaunes. Et les pêcheurs arrivent et vendaient du thon. C'était vraiment une vie idyllique. Et tout ce que je voulais faire, c'est être pêcheur. Je ne voulais pas être astronaute, rien du tout. Et la raison pour laquelle je voulais devenir pêcheur, c'est que je me réveillais le matin et on voit la mer, vous êtes votre propre patron, vous dirigez votre propre vie, vous réussissez ou vous échouez, personne ne vous aidera. Et vous avez cette vraiment ce plaisir de se sentir communauté. Les gens ont écrit des chansons là-dessus.
Alors, c'est un mode de pêche qui est un mode de pêche à l'ancienne, j'ai envie de dire, industriel à l'époque.
Oui, tout à fait. Dans ma communauté, c'était des artisans, c'était petit, les fruits de mer, tout ça, c'était mesuré en heures et non pas en jours. Donc j'ai quitté le lycée quand j'ai eu 14 ans et j'ai pris la mer au désespoir de mes parents. Et j'ai pêché tous les poissons et j'ai terminé dans la mer de Bering pour attraper des crabes. C'était vraiment la profession la plus dangereuse en Amérique dans les années 80.
Alors, ce sont des méthodes de pêche industrielles. Et puis, petit à petit, vous vous rendez compte que, c'est la réalité de la mer qui se vide petit à petit de ses poissons.
Mais tout à fait. Il est important. Vous savez, nous ne sommes pas des criminels, nous sommes trop bons dans ce qu'on fait. Les humains sont comme ça, on devient trop bons dans ce qu'on fait, on est devenu trop efficace. On a pu vraiment vider des écosystèmes avec des filets, de moins en moins de poissons dans les mers. Et en tant que jeune génération, il était clair que l'océan ne pouvait plus continuer comme ça. Les capitaines d'industrie, ils pensaient à 10 ans comment pêcher les derniers poissons. Et ceux qui voulaient passer leur vie sur l'eau. Mon but, c'était de mourir sur mon bateau. Nous voulions être sur l'eau pendant 50 ans. Et on a commencé à réfléchir, il doit y avoir une autre façon de faire. Mais on n'avait aucune conscience, aucune idée de ce que ça voulait dire. Mais c'était le début de quelque chose.
Alors, justement, c'était le début de quelque chose. Alors, vous allez vous lancer dans plusieurs projets différents. Vous allez subir quelques échecs.
Oh, so many failures.
Ah, tellement d'échecs. Si je les compte, toute ma vie, c'est en grande majorité des échecs. Et vous savez, mais c'était vraiment un voyage fantastique. Je ne suis pas arrivé à quelque chose de nouveau. J'ai fait face à des défis après des défis. J'ai tenté de rester sur l'eau. J'étais dans la mer de Bering. Et puis, donc, véritablement, il n'y avait plus de poissons. Et c'était les gens qui sont passés au chômage, parce que les poissons avaient disparu. Des milliers de gens qui étaient au chômage. Et je me suis dit, mais ce n'est pas un problème d'environnement, c'est un problème de travail. Il n'y aura plus de travail dans un océan mort. Et c'est là que j'ai commencé à aller à faire ce voyage comme une rédemption écologique. Et je n'étais pas écolo, et les écolos ne parlaient pas bien à ma génération. Ils disaient, ah, ouais, il faut sauver les ours, les abeilles, trucs et les machins. Mais non, il fallait sauver la culture, il fallait sauver des espèces, il fallait garder l'océan vivant pour que puisse vraiment avoir le métier avec lequel j'ai grandi.
Alors, au départ, vous dites, vous pensez vous tourner vers l'aquaculture. Et puis là, vous réalisez finalement que l'aquaculture, elle répète les erreurs de l'agriculture industrielle.
Exactement. Moi, je suis allé voir les fermes parce que je pensais que ça serait la réponse, et pas en tant qu'employé. Ils m'ont dit, ah, mais on va nourrir la planète, ça sera les nouveaux emplois de l'avenir. Et à la place de ça, on faisait croître des poissons qui n'étaient ni des poissons, ça n'avait pas l'air de poissons. C'est exactement ce qu'on ne veut pas faire dans les océans. On a fait toutes les erreurs de l'agriculture industrielle. Il y avait des pesticides, des antibiotiques, la monoculture. Vraiment, on polluait les eaux. Et les erreurs de l'agriculture, c'était de dire, bon, ben oui, eh bien, on va faire exactement ce que veut le marché. Donc, les gens veulent manger du saumon, des trucs comme ça. Et au lieu de parler et demander à l'océan, qu'est-ce qui est unique comme espace agricole et aquacole et qu'est-ce qui fait sens? Et quand on demande à l'océan, ça dit on peut faire croître des choses qu'il ne faut pas nourrir et qui ne s'enfuient pas. Et c'est ça que l'aquaculture doit être. Et c'est ça, c'est le grand changement pour moi. Choisir les espèces qui avaient du sens dans l'eau.
Alors, vous avez quand même une intuition génial, issu d'un raisonnement implacable. Le raisonnement, c'est de dire finalement l'agriculture terrestre, elle est au bout de ses capacités et il faudra produire dans les prochaines années pour nourrir l'humanité autant que dans toute l'histoire du peuplement humain. Et là, vous vous dites, la seule solution, c'est quand même de se tourner vers la mer.
Yeah, yeah. I mean, so many of us,
oui, tellement d'entre nous, vous savez, on tente de s'enfuir de la côte, on a peur de l'océan parce que la mer monte et on passe vers l'intérieur des terres. Et en fait, il faut se retourner et voir la mer comme une solution. Notre système alimentaire a été nous pousse vers la mer parce qu'il y a des feux et tout ça. Et les poissons sauvages ne pourront pas nous nourrir. Il y aura toujours de la nourriture dans les océans, mais ça sera de plus en plus rare. Donc, à quoi ça va ressembler maintenant? Et la chose intéressante, c'est d'avoir des plans et de construire quelque chose de nouveau. Et des choses dont on est fier. Construisons une industrie qui ne fait pas les mêmes erreurs. Et en se disant, ben voilà, quelque chose de beau qu'on a construit.
Alors, vous livrez une citation géniale de Jacques-Yves Cousteau, que tous les Français connaissent, évidemment, notre commandant Cousteau. En 79... il a cette intuition, nous devons planter la mer, l'utiliser comme des fermiers et non comme des chasseurs.
Oui, oui, c'était en 79. Et voilà, c'est le père de la conservation des océans. Il regarde les mers et il dit, il faut sauver les mers et l'utiliser pour nous sauver nous-mêmes et la planète. C'était, il était vraiment en avance de décennies de décennies. C'était un petit moment dans ma vie où je me suis dit, je vais devenir comme Jacques Cousteau. Je suis allé à l'école, j'ai pris des études de sciences. J'ai dit, non, non, c'est pas pour moi. Moi, je suis un pêcheur, vraiment au fond de moi-même. Et pour moi, c'est un des héros, effectivement.
Alors, venons-en maintenant aux fermes que vous avez créées. Alors, vous parlez pour votre modèle de culture d'agriculture océanique régénératrice ou alors de culture océanique en 3D. Concrètement, comment ça fonctionne ?
Sure.
Eh bien, écoutez, je voudrais vous dire que moi, j'ai rien inventé. Les gens qui sont sur la côte depuis des millénaires ont tenté de comprendre comment cultiver les mers. Un Irlandais a inventé des murs de clams. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis ensemble, toutes les inventions, dans un système où on peut faire croître plusieurs espèces ensemble, dans un système d'aquaculture. À un moment de l'histoire, c'est difficile d'imaginer ce qui se passe sous l'eau. Vous savez, moi, je dis que je dirige l'écotourisme parce que on ne peut rien voir. Il y a rien que des vagues. Mais c'est bien. Donc, tout ce que nous avons des centaines de mètres en bas. Nous avons quelques cordes avec des bouées et sous la surface, quelques liens. C'est comme un système d'échelle de cordes. Et on fait construire des algues, des moules, des coquilles Saint-Jacques en utilisant cette infrastructure. Et ce qui est important, c'est que c'est régénérateur de soi-même. Toutes nos espèces ramènent la vie dans la mer. Par exemple, lequel c'était des plantes les plus rapides à croître sous l'eau. Et ça filtre beaucoup d'eau, des centaines de litres d'eau par jour. Ça régénère l'eau, ça élimine le gaz carbonique. Et donc, moi, j'extrayais autrefois des poissons, et maintenant, je fais croître des choses qui régénèrent l'océan. Et c'est très facile à faire, et bon marché. Donc, des gens comme moi peuvent entrer dans cette industrie. Moi, ça a coûté 20 000 à 30 000 dollars à construire. C'est simplement des bouées et des cordes. Et mon bail, c'est 500 dollars par an. Mon bail aquatique, et donc le prix d'entrée est très bas. Et ça nous permet de répliquer et d'avoir beaucoup de gens qui entrent dans cette industrie.
Alors, quand vous le présentez comme ça, ça paraît une petite ferme presque sans importance, j'ai envie de dire. Or, quand on regarde les mesures qui ont été faites de l'impact que pourrait avoir votre mode de culture, vous citez la Banque mondiale, 5% des eaux territoriales américaines pourraient avoir l'impact suivant qui est considérable. 50 millions d'emplois directs, l'équivalent en protéines de 2,3 trillions de hamburgers, et tout ça capturerait l'équivalent des émissions de CO2 de 20 millions de voitures. Donc c'est un impact macroéconomique.
Mais c'est la Banque mondiale qui dit ça, c'est pas des dingos, hein. C'est vraiment des chiffres exacts. Et on oublie à quel point l'océan est rapide, à quel point c'est une grande ressource. Et c'est pas simplement qu'il y a tellement d'espace là-bas, mais parce qu'on peut utiliser toute la colonne d'eau. On peut faire croître beaucoup de nourriture sur un petit territoire. 20, par exemple, deux arts. On peut faire croître énormément d'algues sur cette surface. C'est beaucoup d'algues, c'est juste une ou deux personnes au travail. Donc les fermes sur la côte, c'est pas aussi beau que comme des petites choses. Et il faut avoir beaucoup d'impact économique, mais bien sûr, et c'est une industrie qui est échelonnable. Mais ça n'a pas besoin d'être des grandes entreprises qui font ça. On peut voir des développements horizontaux où beaucoup d'entre nous qui font 20, 30 fermes, des cercles d'entrepreneurs qui répliquent ça le long de la côte. Et c'est le modèle que l'on voit aux États-Unis. Et on peut avoir un énorme impact comme ça.
L'exploitation de 9% des océans mondiaux pourrait générer assez de biocarburants pour remplacer toutes les énergies fossiles.
So that number, it's out of
ce chiffre,
University of Netherlands,
ça vient de l'Académie des universités des Pays-Bas. C'est un chiffre étonnant. Je ne sais pas s'il faut le faire ou pas. Peut-être que ça n'a pas de sens, mais ça vous montre les capacités productrices des États-Unis. Moi, j'aime bien les algues parce qu'il y a beaucoup d'utilisations pour ça. Et les bioénergies peuvent être ça, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup mieux comme utilisation pour le Kelt. Mais il y a un poète français qui a dit, comme les vers luisants, c'est beaucoup plus que ça en a l'air. Et ça peut être une solution climatique, ça peut créer des emplois, et il faut le faire de la bonne façon.
Votre vision pourtant de l'exploitation de la mer, elle ne convient pas à tous les écologistes. Il y a des écologistes qui ne sont pas d'accord avec votre façon d'utiliser les ressources de la mer.
Tout à fait. Je crois que c'est un débat intéressant parce que nos océans sont les communs, c'est ouvert à tout le monde. Je ne possède pas la mer. Les écolos ne possèdent pas la mer. Moi, ça fait 20 acres, ça fait 20 ans que je les cultive. Je ne le possède pas. N'importe qui peut prendre, peut nager, peut pêcher. Vous savez, il y a tellement de poissons parce que c'est véritablement quelque chose qui se régénère. Et moi, je comprends les critiques et les inquiétudes. Moi, je dirais, les écolos, ils sont encore des environnementaux dans leur état d'esprit, mais prenez l'intégralité de l'océan et on peut en faire un parc marin et ça va mourir parce qu'il y a beaucoup d'azote, il y a beaucoup trop de gaz carbonique. Les océans meurent à cause du changement climatique. Donc il faut qu'il y ait des gens au travail qui ramènent la vie dans l'océan. Et c'est aux États-Unis, c'est la version Teddy Roosevelt de l'environnement. C'est des parcs, des parcs historiques sur Terre. Non, non, ce n'est pas suffisant maintenant. En tant qu'écolo, il faut regarder et dire qu'avons-nous besoin de changer dans notre vision de l'avenir pour sauver les océans et sauver la planète. Et j'ai travaillé avec des pêcheurs qui mettent en fait des fermes d'aquaculture des algues pour remettre de la vie. Et donc, on plante des forêts de kelp pour que les parcs verts soient vivants. Ils ne les cultivent pas, ils les laissent comme ça. C'est un grand exemple où les pêcheurs luttent, ils ont besoin d'emploi, ils veulent rester sur leur bateau, et on peut les mettre au travail en faisant revenir la vie dans les océans et arriver au but des écolos. Moi, je dois changer en tant que pêcheur grâce à cette rédemption écologique. Les conservationnistes, nous sommes tous sur ce voyage. Il faut réexaminer ce qu'est les théories du centenaire, du siècle passé. Et moi, je l'ai fait personnellement. Et c'est vraiment, c'est un voyage marrant, c'est bien.
On est tous sur le même bateau, vous dites.
Exactement, on est tous sur le même bateau, pour le bien ou pour le mal.
Alors, un point que vous avez évoqué, qui est assez intéressant philosophiquement, vous avez dit on n'est pas propriétaire de la mer, mais c'est justement une des différences que vous soulevez dans votre livre, parce qu'en fait on parle de fermes marines, et on a tendance à vouloir faire la comparaison avec les fermes agricoles sur Terre, et vous dites la grande différence... c'est que on peut posséder la mer, mais on n'en est pas propriétaire. Et la grande différence entre une ferme sur Terre et une ferme dans la mer, c'est que sur Terre, vous êtes propriétaire de votre surface, pas dans la mer.
Tout à fait. Le seul droit, tout ce que j'ai dans ma partie d'eau, c'est le droit de faire croître des algues et des crustacés. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent pêcher ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas de la propriété. C'est pour ça qu'on a fait très attention pour créer nos fermes sans avoir d'impact esthétique, par exemple. Je voudrais que mon boulot maintenant, c'est d'aider au fait que l'océan reste vivant pour qu'on puisse tous en tirer du plaisir. On a cette occasion. Vous voyez, c'est comme une ardoise vide. Sur Terre, il faut défaire toutes les mauvaises choses. Et puis, on n'a pas besoin de faire ça sur la mer. On peut le construire du bas vers le haut. Ça nous donne du temps pour planifier, anticiper les problèmes. Par exemple, nous avons un fermier peut prendre les algues d'un endroit, les faire croître et les rendre après à la banque. C'est pour éviter la privatisation d'entreprises qui posséderaient des types d'algues. Non, ne faisons pas ce que les autres ont fait et faisons-le de façon différente. Et c'est ça, c'est la partie enthousiasmante. On construit quelque chose dont on est fier.
Vous citez dans votre livre Vincent Doumézel, qu'on avait reçu dans la librairie de l'Écho pour son livre sur les algues, et qui nous disait, en fait, les algues, c'est à la fois la ressource la plus abondante sur Terre et la plus mal utilisée et la moins utilisée.
C'est intéressant, il y a cette histoire coloniale occidentale, l'utilisation des algues qui a été perdue, et ça a été mis à part. Vous savez, ça a été fermenté en Italie, on les utilisait avec des ferments, c'était utilisé dans le pain, en Irlande, il y a en Amérique du Sud, ils l'utilisaient aussi, et les fermiers ont toujours utilisé pour apporter des intrants sur Terre. Et c'est quelque chose que nous avons fait par le passé et ça a été complètement oublié par l'agriculture industrielle, par le soja et tout ça. Il est temps de faire revenir les algues. Vous savez, Doumézel, il y a tellement... Il y a 1200 ou plus, je ne sais pas combien de milliers de plantes sous la mer. Et imaginez, vous êtes un chef cuisinier. Toutes ces légumes que vous n'avez jamais vus, que vous n'avez jamais goûter précédemment. C'est cette cuisine climatique qu'on va créer avec l'expertise des chefs de cuisine. C'est pas comme si on était en train de forcer de manger de l'huile de foie de morue. Non, ça peut être délicieux. Les algues ouvrent beaucoup de créativité en cuisine. Et nous, en tant que pêcheurs, on est vraiment très enthousiastes sur la façon de faire de nouvelles choses avec nos mains, mais aussi avec les chefs, mais aussi les entrepreneurs qui font des bioplastiques, qui utilisent tous ces nouveaux usages pour les algues.
Alors justement, si on se projette un peu, qu'est-ce qu'il y aura demain dans nos assiettes?
Je ne sais pas, c'est difficile de changer le goût. Moi, je ne voudrais pas le survendre.
Comment vous allez réussir à nous faire manger des algues, par exemple?
Moi, je ne les mange pas, je n'aime pas. Moi, je les fais croître, je ne les mange pas. Écoutez, non, ça n'a pas l'air chouette.
Vous ne mangez pas de coquillages, vous ne mangez pas d'algues, et alors même, j'ose le dire à tous nos téléspectateurs et auditeurs, pour quelqu'un qui a été pêché, vous ne savez pas nager non plus. Donc, comment vous allez me convaincre, moi, de manger des algues?
J'ai pris le pire des boulots au monde, n'est-ce pas? Non. Peut-être que je devrais recommencer à zéro. Non. Et donc, il est important d'être honnête et pas dire « Ah, on va convaincre tout le monde de manger ci et ça, les algues sont délicieuses ». Non, il y a un segment. Ça se produit déjà, qui va dans les différents goûts des algues, qui utilisent, on fait une moutarde de Dijon, par exemple, aux États-Unis. On utilise des burgers, on fait des burgers faits avec les algues. On peut mélanger le terroir et le miroir des mers. Et donc, ce passage est trop lent. La raison pour laquelle je crois en cela, c'est qu'on peut avoir vraiment une stratégie totale. Il y a beaucoup d'utilisation pour les algues. Comme pour le soja, on peut le mêler à d'autres industries. L'industrie du soja, vous savez, dans les années 50, on s'est dit, personne ne mangera toujours du soja. Donc on va en mettre du soja partout. Et on voit le soja, effectivement, 50 ans plus tard, dans tellement de produits différents. On peut prendre le kelp et en faire du bioplastique. On peut le transformer en intrant dans les cosmétiques, dans la pharmacie. C'est vraiment un intrant fondamental qui peut être utilisé. Et l'autre chose, c'est l'économie. Le prix de tout va augmenter parce que il y a des sécheresses, toutes les céréales vont monter en prix. C'est comme ça. toutes les personnes qui n'ont pas besoin d'eau, qui n'ont pas besoin d'engrais, qui n'ont pas besoin de terre, ça sera la nourriture la plus disponible sur Terre, sans argent. Ça restera constant. Et donc ça, ça va rentrer dans nos assiettes. Mais ça sera beaucoup plus comme un ingrédient, des alternatives au soja. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas obligé de manger des algues tous les soirs.
Alors, à la fin de votre livre, vous donnez même des recettes, avec notamment les laminaires, hein, qui sont une sorte d'algue qui est la plus fréquemment cultivée. Alors, laminaires sucrés et carottes façon barbecue, galettes de courgettes et de laminaires à l'aioli d'algues, ça a l'air très bon, tout ça. Pour terminer, Brent Smith, est-ce que le modèle de vos fermes est transposable dans toutes les mers du monde?
It's a great question. So there are excellente question. Il y a tellement de plantes qu'on peut faire croître. Il y a des choses qu'on peut faire croître n'importe où. Ça peut être des coquillages, ça peut être des algues. Ça sera différent dans chaque endroit. Moi, je suis dans le nord de New York, nord vers l'Alaska, dans des eaux plus froides. Donc le kelp et des coquilles Saint-Jacques sont parfaites pour ça. À Porto Rico, en Indonésie, ils font croître différents types d'algues. Et donc c'est possible partout. Cela étant dit, les océans changent très rapidement. Et une des grandes questions qu'on a, nous, fermiers des océans, est-ce qu'on peut rester sur cette vague? Est-ce qu'on aura suffisamment de chefs, d'ingénieurs? Est-ce qu'on pourra toujours faire croître nos choses pour fournir? Et je suis sûr qu'on peut le faire aussi longtemps que nous collaborons tous ensemble. J'ai une vision. L'industrie est suffisamment jeune, il faut coopérer et ne pas être en concurrence parce que les océans sont tellement volatiles. Il faut savoir, il faut que chaque personne dans cette chaîne se parle, trouver des solutions, trouver des faire face aux défis. Et c'est pour ça que nous avons créé cette vague verte, Green Wave, pour former et collaborer sur le plan international.
Merci beaucoup, Brent Smith. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette librairie de l'écho. Merci beaucoup à Michel Zlotowski pour sa traduction toujours aussi fluide. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, Pascal Samama qui nous emmènera dans le futur. Et puis Benaouda Abdedaïm, notre globetrotteur et sa moisson hebdomadaire d'études glanées dans le monde entier. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques. Aujourd'hui, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis le patron, je sais jamais comment dire, le patron, l'animateur.
Ouais, le patron, c'est bien.
Le patron de la rubrique livre à Alternatives Économiques. Et puis notre ami Julien Damon, qui parmi ses multiples fonctions est enseignant à Sciences Po, à HEC. Et puis critique aussi pour les échos, toujours le quotidien, Julien. Et donc, cette semaine, vous avez choisi, messieurs, un petit coup de projecteur sur une nouvelle collection au PUF. Ça s'appelle Défi Économie. L'idée, c'est de s'emparer des grands débats d'économie, de politique économique. Et donc, vous allez discuter des deux premiers livres de cette collection. Alors, le premier, on démarre avec le choix de Julien Damon, le livre de Pierre Boyer. Peut-on être heureux de payer des impôts?
Excellente question, et la réponse, quel suspense, est oui. Maintenant, il faut dire, vous l'avez indiqué en introduction, que c'est un ouvrage qui s'inscrit dans une nouvelle collection qui est très grand public, qui traite de questions brûlantes comme celle-ci, et qui ne s'adresse pas aux économistes chevronnés qui seraient contents de discuter de l'équation. C'est globalement assis sur la recherche, les connaissances synthétiques sur une question. La question ici est, peut-on être heureux en payant des impôts? Lorsque l'on paye des impôts, premier constat, il y a des pays où on paye encore plus d'impôts qu'en France, où globalement on paye le même niveau d'impôts de cotisations sociales, où les prélèvements obligatoires sont en pourcentage du PIB comparable à la situation française, et où les gens sont opulents et satisfaits de leurs services publics et, dernière caractéristique, plutôt heureux de payer des impôts. Nous, les Français, les trois quarts d'entre nous, on considère que les impôts sont trop élevés, en général. Mais les deux tiers, c'est moins que les trois quarts, dans leur cas personnel, estiment que leurs impôts sont trop élevés. Bon, total, on pense que les impôts sont trop élevés. Il y a une forme de ras-le-bol fiscal. Monsieur Boyer, qui est enseignant à Polytechnique, reprend ce terme pour le détricoter et pour chercher à saisir. Et il nous dit, distinguant en cela ce qu'il baptise le civisme fiscal, le fait de payer ses impôts, et deuxième chose, l'adhésion aux politiques redistributives, l'adhésion aux prélèvements obligatoires, que ceci peut s'expliquer par l'appréciation plus ou moins positive que l'on a de l'usage des fonds publics.
Bah oui.
Ça s'explique aussi, c'est pas des découvertes extraordinaires pour un économiste chevronné comme vous, ça s'explique aussi, mais en deuxième rang, par la connaissance que l'on a de ce système qui est quand même extrêmement sophistiqué, ça s'explique par le niveau de confiance que l'on a dans les institutions, et ça s'explique aussi par le fait que l'on trouve plus ou moins la fraude injustifiée. Mais ça ne s'explique pas en fonction de notre gradient social. C'est une des caractéristiques de ce petit ouvrage par rapport aux thèses qui ont cours en la matière. Ça permet de réviser en très peu de pages, hein, ça se lit extrêmement rapidement, des sujets comme la célèbre courbe de l'affaire, qui a une conclusion que l'on connaît bien, trop d'impôts tue l'impôt, et qui est un sujet plus ancien que ce que monsieur l'affaire a mis en avant. Plus originalement, parce que je n'en avais pas moi conscience, Christian certainement, il relie la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et nous montre que l'impôt est au cœur du projet républicain. Il nous montre aussi le passage des États militaires aux États providence. Et il termine par un sujet qui est à la fois technique et original. Il est technique parce que les gens savent de quoi il en tourne quand on parle de individualisation, familialisation, déconjugalisation de l'impôt. Et il observe que, je caricature sa conclusion, mais pour la rendre un peu vivante, que, au regard des transformations familiales, eh bien, nous devrions aller vers davantage d'individualisation de l'impôt, ce qui me fait dire que le bonheur conjugal et le bonheur fiscal sont liés.
Christian Chavagneux.
J'ai trouvé que le livre était en même temps important, intéressant et frustrant. Pourquoi important? Parce que Julien l'a dit, il parle du consentement à l'impôt. Et comme le disait Henri Morgenthau, le ministre des Finances de Roosevelt, les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée. Donc c'est vraiment important de se préoccuper de ce sujet. Le livre est important parce qu'il parle de la France, pas du consentement à l'impôt en général, ouais, mais de la France. Il s'appuie, comme l'a dit Julien, sur les recherches, ce dont on dispose aujourd'hui comme information. Et l'auteur nous dit, nous donne toutes les caractéristiques du consentement à l'impôt et surtout il nous les classe. Il fait un travail, on dit, voilà, cette variable-là, la plus importante, comme l'a dit Julien, la plus importante, c'est pas une découverte. Si les gens pensent que leur argent qu'ils payent en impôts est bien utilisé, ils ont plutôt envie de le payer. L'équité sociale est importante. Alors, quand on parle d'équité sociale, justice sociale, on pense qu'il faut que les plus riches payent leur juste part d'impôts. L'auteur dit attention, il y a près de 20% des gens qui pensent que les plus pauvres ne payent pas assez d'impôts, ne contribuent pas assez au système. On retire beaucoup et ne contribue pas assez. Donc, attention, il y a aussi cet aspect dans la justice fiscale. Alors, il y a effectivement la confiance dans les institutions. On préfère généralement, enfin, on a plus confiance dans le maire que dans le président de la République. Mmh. Malheureusement, le gouvernement a supprimé l'impôt, la taxe d'habitation, qui est la plus proche, dans laquelle les gens, a priori, avaient plus confiance. Donc, ça peut être un mauvais choix. La fraude, qui arrive seulement après, et puis, il y a la connaissance de l'impôt. Est-ce que vous savez quel est le premier impôt qui rapporte le plus? La TVA? Ben non, je sais pas. Plus vous savez, plus vous consentez, mais c'est vraiment le dernier élément. Tout ça est important. Et en même temps, c'est frustrant parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est à peu près la moitié du livre. Tout le début du livre, c'est des considérations très, très général, qu'on l'a lu 100 fois, et toute la fin du livre est très très faiblarde. C'est des 3-4 sujets traités en 2-3 pages, c'est vraiment très très faible. C'est pas en balançant une vidéo à des gens pour leur dire, vous savez, les impôts c'est bien utilisé, qu'on va faire exploser le consentement à l'impôt. D'autant plus que l'essentiel de l'information qui est utilisée vient du baromètre publié par le Conseil des prélèvements obligatoires sur les Français et les prélèvements fiscaux sociaux. Moi j'adore ce baromètre, et je le regarde toujours avec intérêt. Sur la fraude par exemple, vous dites aux gens, classez-vous de 1 à 10 entre 1, la fraude et l'évasion fiscale, c'est pas bien, 10, c'est toujours justifié. La moyenne française, c'est 3,3. Donc, c'est vraiment des Français qui rejettent la fraude. Et nous dit pourtant, c'est pas un des éléments importants, ça vient en dessous dans la hiérarchie. Pourquoi? La courbe de l'affaire, moi, j'ai bien aimé, on se trouve dans le baromètre, il y a marqué que, et si on augmente les impôts, vous arrêtez de travailler ou pas? Il y a que 20% qui disent oui. Donc, à 80%, la courbe de l'affaire, elle n'existe pas. Un sujet intéressant, 43%. Des gens qui sont classés dans les 10% les plus riches trouvent que les 10% les plus riches sont pas assez imposés. Ça, c'est quand même intéressant. Il y avait plein de pistes à creuser qu'il n'a pas voulu. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que Pierre Boyer, c'est cette génération de jeunes économistes experts. Vous savez, moi, j'ai mes équations, j'ai mes tableaux, je ne fais pas de politique. Je suis un économiste objectif. Il croit qu'il fait de la science alors que la politique transpire à toutes les pages. C'est dommage que ce genre de jeunes économistes ne se saisissent pas de ces débats politiques dont on a envie de parler alors qu'ils disposent de beaucoup d'informations importantes et pertinentes.
On peut sauver un peu le soldat Boyer sur la forme. Enfin, c'est un tout petit livre.
Bon,
ça se lit en une demi-heure.
Est-ce que le deuxième livre de cette nouvelle série, le livre de Vincent Vicard, « Faut-il réindustrialiser la France ?» toujours au PUF, est du même tonneau, Christian Chavagnier ?
Oui, ça se lit très bien. C'est un petit livre qui se lit très bien, la question essentielle. Pourquoi est-ce que la France est désindustrialisée ? Attention, nous dit Vincent Vicard, vous regardez sur les 20 dernières années, la valeur ajoutée industrielle en volume a progressé de 20%. Oui. Bon, ça fait 1% par an, et donc en part relative, le reste de l'économie a cru bien plus vite, donc en part relative, la valeur ajoutée industrielle diminue, l'emploi industriel diminue. Il y a pas qu'en France. En Allemagne aussi, le poids de l'industrie baisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Donc il y a des éléments structurels qui jouent dans tous les grands pays industrialisés. Il y a le fait qu'on demande plus de services, de soins, pour se divertir, et puis moins de biens physiques. Il y a le fait que pendant des décennies, les gains de productivité dans l'industrie ont été rapides, et donc beaucoup moins d'emplois dans l'industrie. Il y a cette histoire de frontières aussi. Avant, dans une entreprise industrielle, les gens qui faisaient le ménage étaient embauchés par l'entreprise industrielle. Maintenant, on a sous-traité. Mais c'est un peu plus malin que ça aussi, nous dit Vincent Vicard sur les frontières. Safran, ils font des moteurs d'avion. Donc vous dites, ça c'est du bien industriel, mais soit ils vendent les moteurs d'avion, soit ils vendent des heures de vol. Et donc les heures de vol, c'est aussi la maintenance, c'est aussi la réparation, ça c'est du service. C'est de l'industrie, du service, on ne sait pas trop. C'est tous ces problèmes de définition. Mais bien sûr, la France a une particularité, c'est que si tous les pays industriels se désindustrialisent, la France encore plus que les autres. Ouais. Et là, il y a un élément qui est mis en avant. Nos multinationales ont beaucoup plus délocalisées que les multinationales des autres pays. La part de l'emploi dans les autres pays pour les multinationales françaises est beaucoup plus forte. Alors, en échange, on a des rentrées d'investissement direct étranger, et ce qui fait que notre balance courante, si notre déficit commercial est fort, notre balance courante est plutôt équilibrée. Pour l'avenir, est-ce qu'on va continuer à industrialiser ou pas ? Il y a des forces qui disent oui, l'Internet des objets, par exemple, pourrait y avoir des industries de services, enfin des entreprises de services numériques qui pourraient gérer le processus industriel, ça pourrait être délocalisé, la valeur ajoutée pourrait partir chez eux. L'automatisation reste faible en France, elle pourrait progresser. Tout ça pourrait faire que l'industrie va baisser, mais il y a des forces positives. On veut tous, et la France aussi, produire des biens liés aux ENR. On veut avoir plus d'indépendance. On veut faire attention à la mondialisation entre les pandémies, les guerres, les batailles. Peut-être qu'on va vouloir réindustrialiser notre territoire. Donc l'avenir de l'industrie n'est pas écrit.
Bon. L'avenir de l'industrie n'est pas écrit, mais ce petit livre bien écrit s'inscrit bien dans cette collection didactique et synthétique. Encore une fois, le grand spécialiste n'apprendra pas grand-chose. La personne qui veut avoir des informations sur ce sujet clé, faut-il réindustrialiser ? De quoi parle-t-on quand on parle d'industrie, de réindustrialisation ? Trouvera les éléments clés. Dans une certaine mesure, il remet les pendules industrielles à l'heure, si j'ose dire. Et ce, à l'heure des défis climatiques et des défis géopolitiques. Parce que ce sont ces deux sujets qu'il traite de façon plus approfondie. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté didactique pour nous dire qu'est-ce que l'industrie manufacturière, avec des petites remarques auxquelles je n'avais pas pensé. Moi, c'est vrai que quand on parlait de pays riches auparavant, on disait pays industrialisés.
Ouais, alors,
de fait, à partir du moment où il y a désindustrialisation, on a l'impression qu'on s'appauvrit. C'est pas aussi évident que cela. Christian l'a très bien dit. Au regard d'emploi, il y a désindustrialisation parce qu'il y a une baisse relative dans la proportion d'emploi, il y a une baisse en valeur absolue. Et dans le PIB, Christian l'a bien expliqué, mais redisons-le, puisque c'est des petits livres didactiques, c'est bon de répéter. Il y a une baisse relative dans le PIB, parce que les services prennent de l'importance, mais il y a toujours une montée dans valeur absolue. Ce qu'il met aussi en avant, c'est quelque chose qui est connu des spécialistes, c'est ce que l'on baptise, c'est compliqué à prononcer, je vais essayer de ne pas faire d'erreur, c'est la servicisation de l'industrie. L'industrie devient de plus en plus servicielle, c'est le cas des heures de location de moteurs d'avion de Safran, mais de l'autre côté, les services s'industrialisent de plus en plus, et il montre que les frontières sont plus aussi nettes entre ces deux domaines. Il insiste sur le fait que l'industrie n'est pas une activité comme les autres. C'est généralement des emplois mieux rémunérés quand ils ne sont pas externalisés. Et ce qu'il met en avant aussi, point original qui m'a semblé très important, c'est que la réindustrialisation, c'est quand même très important pour certains territoires. Ceux qui ont été désindustrialisés, et en dehors des métropoles, vouloir réindustrialiser, en particulier en mettant en avant le cas du médicament, n'est pas du tout une mauvaise idée. Dernier mot, c'est deux petits mots. Les défis, c'est très simple de son point de vue. Le premier, c'est de s'adapter à la nouvelle donne géopolitique. Ukraine aidant. Et le deuxième sujet, que Christian aime beaucoup, c'est s'adapter au changement climatique, d'une part en décarbonant l'industrie telle qu'elle est, et d'autre part en industrialisant les outils de la transition écologique. Donc, comme le précédent, ce sont deux petits outils didactiques intéressants.
Merci messieurs, allez, on retrouve notre bibliothécaire du jour, Pascal Samama, qui nous projette dans les guerres du futur.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Cher Pascal, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Pascal Samama, notre spécialiste des questions de défense à BFM Business, et donc vous nous présentez le troisième livre d'une saga, Pascal, aujourd'hui.
Exactement. Eh ben, ça, c'était les deux premiers.
Ouais. Par la Red Team, c'est Guerre qui nous attendent.
Exactement. Et la Red Team vient de publier le troisième volume pour la troisième année. Alors, il faut quand même préciser ce que c'est que la Red Team. Oui. La Red Team, c'est une équipe d'auteurs de science-fiction. Alors, il y a des dessinateurs, il y a des scénaristes, il y a des réalisateurs de films, il y a des auteurs de bandes dessinées, et qui travaillent pour l'Agence Innovation Défense. L'Agence Innovation Défense, c'est une entité tech de la DGA, la Direction Générale pour l'Armement, ouais, qui est elle-même une entité, comme tout le monde le sait, du ministère des Armées. Bref, une bande d'auteurs de science-fiction, d'accord, travaille pour les militaires en ce moment.
Et pour imaginer les guerres du futur.
Exactement. Pas les guerres de 2030, 2040, mais les guerres qui auront lieu dans quelques décennies. Et comment ils les imaginent? Ils les imaginent pas uniquement comme ils savent le faire à partir de leur imagination. C'est des auteurs de science-fiction. Non, ils sont alimentés d'informations provenant des militaires, provenant de scientifiques, provenant d'études, souvent classifiées. Et ils imaginent, par exemple, des guerres en fonction de la montée des eaux, en fonction du dérèglement climatique, en fonction de telle ou telle puissance qui montrait, ou telle technologie.
Et donc, quelle est la thématique de ce troisième opus ?
La thématique, elle est très simple. Il y a un premier scénario qui parle de la guerre de l'espace et de la guerre du minerai sur la Lune.
Ouais.
On se dit, on y est presque déjà.
Ah ouais.
Seulement, là, il parle aussi de satellites en orbite autour de la Lune, avec des espèces de commandos. Vraiment une véritable guerre spatiale, et pas une guerre larvée, comme on peut la voir en ce moment, avec des cyberattaques sur des satellites. Une vraie guerre avec des commandos spatiaux, vraiment comme des films de science-fiction. Ils imaginent que c'est tout à fait réel. Le second scénario, que moi je trouve bien plus intéressant, s'appelle « Face à l'Hydre ». L'hydre, c'est quoi? C'est une espèce d'armée qui est constituée de civils, mais ces civils, on leur a implanté un implant cérébral.
D'accord.
Pourquoi on leur a implanté ça? Parce que en une seconde, on peut mobiliser des troupes, des centaines de milliers de troupes, des dizaines de millions de troupes. C'est-à-dire
que vous prenez un civil mollasson et vous le transformez
en
machine de guerre.
On peut le transformer en machine de guerre, on peut le transformer en médecin des armées, on peut le transformer en ingénieur capable d'imaginer des systèmes industriels, du génie, quoi, vraiment du génie. Et on transforme n'importe quel civil en genre de militaire, en genre de spécialiste.
C'est Matrix en plus poussé encore.
C'est Matrix en plus poussé. Plus poussé pourquoi? Parce que réunis, ils forment vraiment une véritable hydre, hein, comme dans la mythologie. Et chaque élément de l'hydre qui tombe est immédiatement remplacé par un autre. Et pourquoi? Parce que chacun a la capacité de transmettre le savoir qu'il a acquis. C'est la transmission de la connaissance, mais numérique, à un autre élément, à un autre humain, qui prendra sa place si le premier tombe.
Passionnant. En un mot, on verra ça un jour dans nos armées.
En un mot, non, on verra pas ça un jour, parce que pour l'instant, il y a un comité d'éthique qui interdit de travailler sur l'augmenté, qui interdit de modifier le comportement humain des militaires et des civils.
Passionnant. Merci beaucoup, Pascal Samama. Bon, on revient sur Terre, quand même, mais vous allez voir, sur toute la Terre, avec notre globe-trotteur, Benaouda Abdedaïm.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par la Chine. Pourquoi la Chine aurait dû se distancier de la Russie sur l'Ukraine.
Alors ce n'est pas un texte américain, ce n'est pas un texte européen, c'est un texte chinois.
Incroyable.
Un texte du directeur du centre d'études sur la Russie d'une université d'élite chinoise, Fudan, à Shanghai. Il nous parvient par la très intéressante lettre spécialisée signification S-I-N-I-F-I-C-A-T-I-O-N disponible sur la plateforme Substack. Alors le professeur Feng Yujun se démarque assez dans ce monde académique chinois par sa virulence dans la critique de la politique de son pays vis-à-vis de la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Ce chercheur estime ouvertement que c'est le bien-être du 1,4 milliard de ses compatriotes qui est affecté sur la durée. Pour lui, à côté de considérations morales, stratégiques sur le caractère de cette guerre, les actions de Moscou doivent être maintenant considérées comme une tentative russe de se prémunir contre les chocs que la quatrième révolution industrielle, que la transition verte sont en train d'infliger à une économie, celle de la Russie, en plein déclin. Feng Yujun souligne tout le contraste avec la Chine, un produit intérieur brut chinois 10 fois supérieur, des investissements en R&D, en recherche-développement 10 fois supérieur également, et y compris en termes de dépenses militaires, il y a, selon lui, plus de comparaisons possibles. Celle de la Chine représente celle de 5 Russies cumulées.
Ah oui.
Alors, l'auteur qui a travaillé durant 2 ans en Chine dispose, alors que la Russie est devenue, dans une large mesure, je cite, un pays de second ordre, un grand ou plutôt un petit frère dont la deuxième économie mondiale n'aurait pas vraiment besoin. Ne pas compter donc sur la Russie pour, je cite, protéger la Chine du vent et de la pluie. Pire, selon l'universitaire, Moscou a intérêt à exacerber les tensions sino-américaines afin d'atténuer les pressions extérieures qui l'affectent. Le tout maintenant pour la Chine, nous dit-il, et que son développement et son influence dans le monde, compromis par le soutien à ce partenaire inconstant, je cite toujours, susceptible de changer d'allégeance à la prochaine occasion, on notera quand même, et c'est vraiment marquant, toute une série de commentaires chinois très négatifs sur ce texte perçu par certains comme soumis à une vision américaine, voire oui, manipulé par Washington.
Et oui, il fallait s'y attendre. Allez, la bataille pour le transport maritime maintenant, Ben Aouda. Et ce sont les Houthis qui l'emportent.
Oui, les opérations armées des Houthis en mer Rouge suscitent déjà moins de couverture médiatique internationale. Ça ne signifie certainement pas que leurs impacts soient moindres. Ça a commencé fin octobre dernier, rappelons-le, peu après le déclenchement de la guerre de Gaza. Et le chercheur du Centre Qatari d'études Al Jazeera, Mohamed Abdelhati, analyse dans ce document comment cette rébellion yéménite est parvenu à entraver la navigation commerciale transitant entre la péninsule arabique et le nord-est de l'Afrique, non seulement dans cette région, mais ensuite à travers maintenant une bonne partie de l'océan Indien. Ce sont dernièrement 3 navires israéliens et américains qui ont encore été ciblés. Alors le transport de conteneurs via la mer Rouge a ainsi diminué de 35%. Et pour les entreprises qui continuent de passer par là, les polices d'assurance ont gonflé de manière exponentielle. Et il faut à présent consentir à régler 2 millions de dollars pour assurer une cargaison qui en vaut 100 millions, alors qu'auparavant c'était 70 000 dollars pour la même cargaison. Et puis, passer par le cap de Bonne Espérance, censé être la solution de repli facile, induit de multiplier les coûts d'exploitation jusqu'à 3. Des pertes énormes infligées, nous dit l'auteur, à peu de frais. D'autant que cet affrontement d'une nature particulière avec la première puissance mondiale et ses alliés accroît en fait la force politique intérieure et extérieure des Houthis, car il leur a donné une légitimité, leur a donné cette manière d'opérer, une forme de légitimité extraordinaire et tout à fait inédite pour défendre la cause de la Palestine, qui est centrale dans le monde arabo-musulman. Et ce chercheur au Qatar estime que l'ensemble des puissances de la région, y compris Israël, sont amenées à revoir leurs calculs stratégiques vis-à-vis de ce mouvement yéménite qui a pu auparavant n'être considéré que comme une faction affiliée à l'Iran. 3 scénarios sont avancés pour la suite en fonction de l'évolution de la guerre au Proche-Orient. On soulignera celui où les Houthis entreprendraient de détruire les 3 principaux câbles Internet sous-marins qui relient l'Asie à l'Europe et qui passent par là. Oui. Ils transmettent 25% des données entre ces 2 continents. Le chercheur y croit peu, mais il le soumet, ce scénario, à la réflexion de chacun.
Enfin, Ben Aouda, réponse d'une équipe soignante par origine ethnique des patients. De quoi s'agit-il ?
Oui, ça se passe à Boston, aux États-Unis. Nous ne sommes pas ici dans des considérations générales disons, de commentateur quant aux relations raciales. Il s'agit d'une publication du JAMA, c'est la revue scientifique à comité de lecture de l'Association médicale américaine. Et cette enquête...
C'est dit, c'est précisé et c'est important.
C'est même très important.
Vous avez raison.
Cette enquête a porté sur les réponses faites en 2021 au message de 39 043 patients du Boston Medical Center adressé à un portail dédié où vous pouvez échanger avec votre praticien. Michel Tang, qui est économiste de la santé à la Harvard Business School et ses co-auteurs, en conclut que les médecins traitants sont moins susceptibles de répondre si vous êtes noir. Il est bien sûr relevé des différences entre les taux de réponse des praticiens, mais pris globalement, ces prestataires de santé peuvent considérer les requêtes de leurs propres patients noirs comme d'une priorité moindre. Il s'avère que l'échantillon étudié comprenait 21,1% de personnes blanches, mais celles-ci ont reçu 46,3% de ces réponses en ligne.
D'accord.
Dans une moindre mesure, ce qui vaut pour les personnes noires vaut également pour les patients latino-américains et asiatiques. Et cette recherche suggère que les infirmières chargées du triage des demandes pourraient moins les transmettre aux médecins lorsque l'expéditeur, et ça on le voit dans le dossier, est identifié comme issu d'une minorité ethnique. Il est envisagé que ça puisse s'expliquer par la nature des messages, leur contenu, mais aussi en raison, je cite, de préjugés implicites. Ces chercheurs admettent tout à fait les limites de leurs résultats d'enquête, puisque reposant sur un seul système, un seul endroit. Mais par ailleurs, ils ouvrent la piste d'une évaluation quant à la valeur même des réponses du médecin traitant. Est-ce qu'il y a mis plus ou moins d'applications en fonction de l'origine ethnique de celui qui a rédigé sa demande? En fonction de votre couleur de peau, est-ce qu'on vous répond oui, non, peut-être, et de quelle manière?
Eh ben, dites donc. Passionnant, étonnant. Et alors effectivement, ça ouvre de multiples possibilités d'analyse. Donc un travail.
On laisse ça au commentateur.
Exactement, un travail très riche. Merci beaucoup, cher Belaouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Eh ben, pas un livre qui vient de sortir, mais un livre ancien, parce que j'ai voulu rendre hommage à Philippe Minard, qui est un historien économiste qui est malheureusement décédé soudainement il y a quelques jours. C'était un spécialiste du 18e siècle, alors il remontait un petit peu en arrière, parce que Colbert, et puis il allait un petit peu au début du 19e siècle. Grand spécialiste de la politique industrielle au 18e, grand spécialiste de la Révolution française. Il a écrit énormément de livres qui en ont fait un économiste, un historien économiste de renom. Il écrit aussi vous savez, cette façon, ce style, la façon de raconter l'histoire économique en racontant des histoires qui fait qu'on suit vraiment très bien sa prose. En plus, c'était un homme très chaleureux, c'était un humaniste avec beaucoup d'humour et c'est quelqu'un qui nous manquera beaucoup.
Il y a un livre à recommander particulièrement?
Alors, son grand œuvre, c'est le livre qu'il a écrit sur Colbert et sur la politique colbertiste.
La fortune du colbertisme.
Exactement, qui démarre sous Colbert mais qui va jusqu'à la Révolution française. C'est vraiment son plus grand livre, je pense, son chef-d'œuvre.
Julien Damon, votre dernier choix pour aujourd'hui.
Ça n'a strictement rien à voir, mais c'est le jeu de ces derniers choix. J'ai choisi l'ouvrage d'une économiste américaine qui est proche de la Brookings Institution et qui développe un sujet que généralement on rapproche des conservateurs parce qu'elle nous dit en un mot, du point de vue économique, vive le mariage. Vive le mariage comme protection sociale rapprochée, ce qui reste vrai dans le contexte français.
Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle The Two Parents Privilege, le privilège d'être à deux parents. Quelle est la description américaine, hein ? C'est qu'on voit une attrition de ce système familial d'une famille à deux parents mariés. Et elle corrèle ceci avec des éléments de causalité, avec un ensemble de difficultés sociales extrêmement préoccupantes. Et elle met en avant une thèse que j'aime beaucoup, qui est que vous avez des progressistes riches qui passent leur temps à dire qu'il faut s'adapter à toutes les formes familiales, il faut tout tolérer, mais eux restent mariés. Alors, il y a une critique à prononcer, c'est que c'est très américain. C'est-à-dire que c'est le mariage qui est mis en avant, mais ça se traduit dans le contexte français par la stabilité des unions, que celles-ci soient des unions libres, des unions civiles ou des unions par le mariage. Donc, thème un peu habituel, mais traité par un angle original, et qui se résume d'ailleurs par une formule mathématique extrêmement simple, 2 supérieur à 1. C'est pas idiot.
Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture.